11h dans le bureau de Par Jupiter. L'équipe entame sa première semaine de congé de Noël. Et Pablo s'interroge sur les fêtes de fin d'année.
Non mais c'est vrai ça, pourquoi ce besoin de fêter là, la fin de l'année, c'est l'hiver, le froid, les doudounes à capuche, les slips thermodactyles.
Ah, c'est surtout Noël, là, cette fête commerciale.
Non, Malolo, je suis pas d'accord, Noël c'est absolument pas une fête commerciale.
Ah bon?
Ah bah non, moi je crois plutôt qu'à Noël on voit la vraie personnalité des gens. Juju par exemple, je suis sûr que tu sais ce qui me ferait le plus plaisir au monde.
Alors je dirais...
Ouais, l'iPhone 11 Pro, couleur gris sidéral anthracite, exactement.
Ouais, mais enfin c'est pas à moi que tu dois le dire, hein. Tu dois faire ta liste au Père Noël.
Juju, elle est mignonne. Bah, le Père Noël n'existe pas.
Non,
enfin,
Pablo,
pardon, ouais, pas, ouais. Il n'existe pas pour les enfants au passage, voilà. Bien sûr.
Ah, ouais. Tu m'as fait peur.
Ouais, moi aussi. Voilà. Mais toi, Pablo, tu vas passer Noël en famille, non?
Ah bah oui, avec mon oncle pédophile, Simon. Ah. Il a un cœur gros comme ça.
Ah ouais, d'accord. Mais donc, sur ta liste, il y a quoi?
La mienne, elle est prête. Hein.
Ouais. S'il te plaît, Père Noël, est-ce que tu veux bien m'entretenir de belles polémiques pour l'année qui vient,
non,
s'il
mais
te
tu
plaît?
Casses la magie.
Et si tu m'entends, Père Noël, pour cette fin d'année, je voudrais une pluie de co-auteurs dociles, corvéables et gratuits, sans rémunération aussi, s'il te plaît.
Au marché,
et,
là.
Et Père Noël, hein, ouais, que j'ai été plus gentil que Guillaume Maurice, là. Hein.
Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui emprunte le tire-fesse de l'actualité pour dévaler sur les pistes de la blague. Deux invités vont slalomer entre les thèmes que nous avons choisis pour eux. Il y a un acteur et une actrice. Lui, c'est Vincent Elbaz. Elle, c'est Adèle Haenel. On avait découvert Vincent Elbaz dans Le Péril Jeune. Nous lui avons donc soumis un sujet sur la désobéissance civile, les décrocheurs des portraits de Macron. Il milite pour pousser le président à prendre des mesures pour le climat. On évoquera aussi avec lui une manifestation pour défendre l'hétérosexualité aux États-Unis. Des partisans de Trump qui craignent pour leurs bijoux de famille, semble-t-il. Et puis ne ratez pas le sketch où Vincent Elbaz joue le rôle de Cédric Villani lançant sa campagne pour les municipales à Paris. On passera ensuite un moment en compagnie d'Adèle Haenel, puisqu'elle est l'une de nos rares actrices à jouer dans la langue de Goethe. On lui a soumis un sujet sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. On a aussi parlé avec elle de Kristen Stewart, car la production des films Marvel lui a conseillé de mettre en veilleuse sa bisexualité si elle voulait décrocher un rôle dans ses films de super-héros. Et là, ne ratez pas surtout le sketch avec Adèle Haenel interprétant Isabelle Balkany répondant aux journalistes, parce que c'est un must, elle s'est donnée à fond. Juliette Arnaud, vous êtes en charge du casting des chroniqueurs, qui est là aujourd'hui?
Mais j'ai pris que des hommes. Je sais pas pourquoi. D'abord, on aura Hippolyte Girardot qui s'interrogeait sur une de ses obsessions, le mea culpa, et donc forcément un peu de Yann Moix à l'intérieur.
Ouais.
Guillaume Meurice, ben toujours pareil, hein, en obsession, avec il militait pour la libération de Balkany. Et enfin, Thomas Croisière, obsessionnel également. Les femmes, mais les femmes qui réalisent.
Voilà, alors maintenant qu'on est bien échauffé, je propose qu'on se lance tout de suite avec Vincent Elbaz.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter!
Vincent Elbaz, vous êtes à l'affiche du film Andy, réalisé par Julien Veil. C'est un premier long métrage de ce réalisateur, avec Alice Taglioni, Philippe Cura, Jacques Weber notamment. Thomas, votre personnage a toujours vécu au crochet de ses petites amies.
On peut dire ça comme ça.
Ouais. Et vu qu'il est, c'est-à-dire qu'il comptait sur un hébergement. Et vu qu'il a rompu avec la dernière, il est à la rue. Heureusement, la dernière copine travaillait dans le social et donc elle lui trouve une place en foyer où il rencontre une très jolie travailleuse sociale aussi, Alice Taglioni.
Oui.
Jolie mais intraitable, assez rude.
Oui.
Et pour rester au foyer, bien sûr, vous devez trouver un boulot. C'est la règle, vous n'avez jamais vraiment travaillé. Vous êtes plutôt beau gosse mais paresseux. Vous serez escort boy, vous vous lancez là-dedans. Mais vous vous révélez incompétent.
Oui, je monte ma petite entreprise. Ouais, c'est vrai. Non. Oui, trop sensible le mec là pour ça. Oui, c'est vrai,
ah,
c'est vrai.
Vous appelez ça trop sensible, trop une sensible, première
érection. Oui, c'est vrai, il arrive pas, il a du mal quand il y a pas de sentiment, quand c'est d'un coup qu'il y a de l'argent, tout ça, ça devient un vrai travail. Et en fait, son problème, c'est qu'il est allergique au travail. Lui, il peut pas travailler, donc dès que ça devient un job, c'est difficile, mais il a besoin d'aide. Alors, il va demander de l'aide au personnage d'Alice Taglioni. Qui est une femme un peu pas allergique au mec, mais enfin elle a été un peu maltraitée quand même, donc du coup et il lui demande d'intervenir, quoi,
alors qu'elle travaille dans le social. Il lui demande de faire des coups,
ouais,
pour de l'argent.
Lui demande de faire des trucs et Et puis elle intervient, mais très violemment, elle lui met des gifles pour détourner l'attention de la cliente.
Voilà. C'est, on peut dire qu'il y a un côté comédie romantique,
oui,
assumé.
Oui, oui, bien sûr. Oui, ça joue avec ces codes-là.
Il se tourne autour, ça joue avec ces codes-là.
C'est une rencontre.
Mais dans le cadre d'un foyer SDF, alors il faut l'assumer complètement.
C'est un foyer social, parce qu'il paye un petit loyer modique. On leur demande de travailler en échange du loyer, en échange de la chambre. Donc, non, c'est pas des SDF, mais oui, ils sont un peu.
Enfin, ils l'étaient, ils ne le sont plus.
Bah, lui, on va dire que c'est un peu un ex. Beau mec, un peu, qui a, on va dire qu'il a pris un peu de poids, il perd un peu ses cheveux,
et
où est le problème? Et mais non? Et alors, non, s'il y a aucun problème. il est toujours là, il est toujours vivant, il est toujours bien, il est top. Okay.
Arrêtez de le regarder, ça me dérange, monsieur Elbaz.
et qui veut s'en sortir, il se dit, bon, je vais faire escort boy, ça va pas être bien difficile, quoi. Mais à partir du moment où la cliente pose l'argent sur la commode, elle a le pouvoir, quoi. Mmh. Ça devient un objet, et ça, d'un coup, il se retrouve dans des situations un peu de vulnérabilité, quoi.
Et c'est aussi un cœur tendre. Justement, vous êtes longtemps battu pour vous dégager aussi du personnage de Chabert dans Le Péril Jeune de Cédric Clapiche. C'était votre tout début, c'était votre premier film.
Oui.
Est-ce que le personnage aujourd'hui d'Andy, malgré tous les rôles que vous avez joués entre hier et aujourd'hui, c'est un peu un héritage de ça quand
un
même
peu,
ça pourrait
peu.
Être lui qui a vieilli.
Ouais. Non, j'en avais un peu marre, mais c'est vrai que quand il m'a proposé ce rôle, je me suis dit il a un humour, Julien Veil, qui me fait tellement rire, et il réinvente un peu le comique de situation, je trouve. J'ai lu des situations que j'avais jamais vues dans le cinéma français ou que j'avais jamais joué. Et il me proposait de pousser le truc un peu plus loin en faisant un personnage comme ça. Sur le retour, quoi. Vraiment, voilà, c'était... Donc, ça m'a bien fait rire. Et il y avait cette phrase, à un moment donné, ce mec qui sort de sa douche en disant, tu sais, moi, je suis un peu un mélange entre Hugh Grant et Richard Gere dans Pretty Woman. Et je m'étais dit, si le mec a un peu du gras du bide et qui galère avec ses cheveux, et que ça peut être très drôle, un personnage qui n'a pas cette distance sur lui-même et qui est persuadé que tout va bien se passer, sauf que c'est des personnages de grands, grands branleurs qui me font toujours rire au cinéma. Donc voilà, j'espère que ça fera rire les spectateurs.
Mais alors justement, c'est quand même Andy, c'est un sommet de loose, et il coche aucune des cases de la soi-disant virilité. Il est allergique au boulot, il est SDF, il est pas trop bon à la bagarre, et il a une capacité érectile, clairement qui est douteuse. Pendant qu'Alice Taglioni, elle distribue des baffes aussi bien que Lino Ventura.
Oui, oui, oui,
alors
tout à fait.
En tant qu'acteur. On se réjouit ou on serre les miches ou les deux?
Non, ça me réjouissait de jouer ça. C'était très très drôle, et puis j'aimais cet humour un peu décalé à l'anglaise, et ces situations qui inversaient un peu les rôles, quoi, où le pouvoir il était un peu de l'autre côté chez des femmes qui arrivent qui ont l'air vulnérables, qui ont besoin soi-disant d'affection, etc. Et puis dès qu'elle pose le blé sur la table, il n'y a plus de pitié, quoi. Enfin, il y a un truc, c'est assez drôle à travailler et de se retrouver dans ces situations-là, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que quand on vous dit non, finalement, vous êtes comme les mecs, quoi. Vous insistez lourdement, quoi.
Non, on a lancé un petit débat, mine de rien.
Et on vous rappelle que c'est une comédie, donc c'est fête. C'est Martha Reeves and the Vandellas, Nowhere to Run. Vous écoutez France Inter. Deux militants écolos sont jugés pour avoir décroché le portrait du président de la République dans une mairie. Ils font partie d'un gang qui sévit dans tout le pays. 128 portraits ont déjà été empruntés, on va dire. Ils seront restitués dès qu'Emmanuel Macron prendra des mesures à la hauteur de l'enjeu climatique. Autant dire qu'on ne les reverra jamais, ces portraits. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président du tribunal de Bourg-en-Bresse qui a déjà jugé d'autres activistes pour le même méfait. Et puis, il y a les maires qui cachent le fait que le portrait soit caché.
Vous avez été saisi récemment ?
Non, pourquoi ?
Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs, comme si on avait retiré des tableaux.
Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, t'es formidable, Lucien.
C'est Daniel Prévost et Jacques Villeray, bien sûr, dans Le Dîner de cons, le film de Francis Weber. Alors, il y a 10 procès qui doivent avoir lieu et qui concernent 36 prévenus. Des procès à Bonneville, Lyon, Paris, Orléans, Mulhouse, Grenoble. Il y a tout vraiment un mouvement national de ce qu'on appelle les décrocheurs.
Ouais, il y a une mafia, quoi. Il y a une vraie mafia.
Vincent Elbaz, est-ce que vous avez de la sympathie pour ces mouvements?
Ce genre d'action, oui. Ouais. Ce genre d'action, oui, parce que c'est une action non violente et qu'elle a du... Je sais pas, elle est à la fois cocasse, drôle et il y a du sens. Hein. Mm-hmm. Il y a une démarche.
Quand il y a du sens et un peu d'humour dans la démarche,
oui,
c'est acceptable.
Oui, oui.
Ouais. Il y a des actions de désobéissance civile dont vous vous rappelez, qui vous ont marqué ou que vous avez aimé. Et on a connu celle déjà avec José Bové, par exemple, le fauchage d'OGM ou démontage de McDo. Et là, il y a plus d'humour, peut-être.
Quel mouvement.
Il y a eu vol de chaises dans les banques pour dénoncer l'exil fiscal.
Ah oui, d'accord.
On peut vous en proposer une, c'est manger du cassoulet. Manger du cassoulet en groupe avant d'aller écouter Zemmour dans une conférence.
C'est pas mal. Non, j'aime bien le décalage entre la peine encourue et le délit, quoi.
Ah oui.
Ouais, ça a encore plus de sens.
Le procureur avait requis 2000 euros.
La photo à 8 euros.
Exactement, 8 euros.
Et
parce que...
Quoi, parce que quoi ?
8 euros, pourquoi vous dites 8 euros ?
Je sais pas, ça coûte rien une photo, non ?
Ouais, sur la boutique de l'Elysée, effectivement, portrait est en vente à 8 euros.
Ah oui, oui, ah, oui, c'est ça. Non, elle a augmenté, j'ai lu, là.
Depuis, ah oui.
Ça a pris un euro. La photo avait pris un euro depuis qu'elle a disparu.
Parce qu'elles sont plus rares.
Ah bah, ça se fait rare et voilà.
Bon, alors, tout le monde a vu le Péril Jeune. Et dans le Péril Jeune, vous étiez quand même une certaine idée de la fronde.
Qu'est-ce que je viens de dire, sommet ?
Ouais.
Et donc, je me disais que moi, si j'étais d'extrême gauche ou que j'avais un mouvement de désobéissance civile, c'est quelqu'un comme vous que je viendrais solliciter pour participer à ce genre. Vous réagiriez comment ?
Ça dépend.
Si c'est des actions de désobéissance comme ça, assez rigolotes.
On ne l'a jamais proposé.
Vous ne l'a jamais proposé ?
Non, on n'a jamais vu.
L'appel est lancé.
Ça, ouais. Mais bon,
proposer à Chabert, quand même, ça le fait.
Ouais, ouais. Oui, mais ils étaient. Non, mais de Péril Jeune, c'est déjà la génération, je trouve, dans le film où ils sont dépolitisés un peu, ils s'en foutent un peu, quoi. C'est après 68. Je me souviens que dans ce film, il y a un petit côté, on s'en branle un peu. Il n'y a pas de conscience politique. Il y en a un qui a vaguement une conscience politique dans le film, mais.
Et c'est marrant dans ce studio de voir côte à côte Chabert et Hippo d'Un Monde sans Ratier. À qui on laisse la parole, Hippolyte Girardot.
Oui. Allons-y. Le mea culpa. Une invention bien pratique de la religion catholique. Une formule magique qui a permis à cette religion de conquérir le monde. Parce que c'est pas très compliqué de faire une prière pour se débarrasser de nos saloperies. Demander pardon pour ses fautes permet de s'en sortir. Il paraît qu'il y a même un barème de prière pour ça. Notre Père, de Je vous salue Marie, et que je t'y reprenne pas. Mea culpa, mea maxima culpa. Yann Moix a donc fait acte de contrition samedi devant la France qui regarde Ruquier. Bon, alors le type, il a quand même très mauvaise mine, faut l'avouer, et il vient pour parler de son livre, et chez son ancien patron pour faire son mea culpa et demander pardon. Ça dure 1 minute 21, et c'est vrai, il est sincère, il demande pardon. C'est pas comme un gosse à qui les parents vicieux diraient « Mieux que ça, j'ai pas bien entendu, pardon, mais pardon qui ? Hein ? Plus fort, j'entends pas bien. Pardon qui ? La communauté juive ? Mieux que ça, s'il te plaît !» Non, Yann Moix, il dit vraiment pardon. Et l'émission marche très bien, on lui pose des questions, il répond sincèrement, et au finalement, son livre, dont il ne parle pas, est en troisième place des ventes Amazon ensuite. Mea culpa, formule magique dans cette France aux fortes valeurs chrétiennes, moex maximal culpa. Ceux qui imaginaient que la mise au pilori de ce garçon permettrait de revenir sur sa stigmatisation des femmes de 50 ans, très sincèrement, encore une fois, permettrait un riche débat sur la misogynie violente de notre pays, en étaient pour leurs frais. On fait du spectacle, les mecs, pas du psychodrame national, faut pas déconner. Mais la religion à la télé, ça marche moyen, en fait. Ça fait un peu jouer, un peu comme dans les films pornographiques. On montre tout comme en vrai, mais tout sonne faux. Parce que si on voulait que ça marche vraiment, il fallait dire ça en grand. Genre Game of Thrones avec Cersei, la diabolique Lannister qui doit marcher nue dans la foule.
Shame. Shame.
Ah, ça c'est beau, on imagine Yac Moix nu, remontant l'autoroute A1 jusqu'au studio dont on n'est pas couché, avec convocation de figurants, mais cette fois pas pour applaudir, mais pour jeter des détritus, huer sur son passage des insultes, etc., etc. Je vous laisse libre d'imaginer vos pires envies, camarades et auditeurs. Là ouais, putain, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, l'émission comme un match entre les bons et le méchant, lui, expiant sa faute en pleurant et saignant, et nous, tellement bon, magnanime, et surtout soulagé, qu'il s'en prenne une bonne, d'abord parce qu'il le mérite, ça c'est clair, et qu'ensuite on puisse rester dans le silence sur l'antisémitisme endémique, les violences meurtrières contre les femmes et les tortures familiales intramuros. Un silence qui ressemble à une omerta dans un pays qui a la formule magique « mea culpa, mea moitsima culpa ».
Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte.
Je ne sais pas s'il faut dire merci ou pardon.
Merci. Vincent Elbaz en notre compagnie. Juliette Arnaud aussi pour nous proposer un deuxième sujet un peu inspiré du thème du film.
Un petit peu. Oui, alors il y a eu une centaine de manifestants qui ont donc foulé le pavé de Boston le week-end dernier pour revendiquer l'hétérosexualité comme modèle opprimé et pourtant sympa et fun. Évidemment, il y a eu d'autres gens qui se sont énervés, c'est normal, c'est assez énervant hein, comme position. Et donc, 1000 contre-manifestants se sont joints pour dire que ça commence à bien faire les conneries et que les hétérosexuels ne sont pas plus opprimés que le gruyère râpé ne l'est par le parmesan. Ce qui compte, c'est de ne pas oublier que l'hétérosexualité, c'est si sympa parfois.
Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Ibn Saoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. Alors, aussi, c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez, j'emmène votre dame à Agdid et puis je vous envoie la dépanneuse. Le branque dit oui et me blaborait avec la poupée. Alors, sitôt parti, je me mets à conduire d'une main. Et à ce moment-là, on arrive dans la zone des dunes. Alors, je dis à ma finlandaise, est-ce que vous avez déjà vu la rose des sables? Non, qu'elle me fait. Alors, j'arrête le bahut et je dis, voyez la dune là-bas? Et ben, derrière, il y a les plus belles roses des sables de tout le Niger. Et ben, elle a voulu y aller voir.
Voilà, voilà, c'était Sans ville de l'art au soleil, Blié avec dans un film de Henri Verneuil. Ces manifestants,
oui,
qui pensent que l'hétérosexualité n'est pas le modèle dominant, enfin, oui, est le modèle dominant, mais sont.
Et devrait le rester, c'est ça?
Voilà, ouais. Et c'est surtout une inquiétude. Et donc, ils retournent tous les arguments LGBT comme des gants. Par exemple, ils ont des slogans qui disent si je leur dis que je suis hétéro, vont-ils encore m'apprécier? Voilà, ce genre de choses. Alors, tout est dans la sémantique. Ils disent que, évidemment, ça n'est peut-être pas une réalité, certes, mais c'est leur sentiment d'être opprimé. Quel effet ça vous fait quand vous entendez des...
Oh, ça me fait penser à une série que j'ai vue, là, que je cherchais depuis longtemps, qui s'appelle Transparent, et qui... Vous avez, même si vous avez beau être hyper tolérant, hyper ouvert d'esprit, hyper tout ce que vous voulez, elle vient vous bousculer cette série sur les croyances, sur la sexualité, sur, elle est géniale. Et effectivement, sur cette histoire de genre et de, voilà, de la thèse, en gros, c'est qu'on est, l'autre c'est une femme, c'est un homme, bon, voilà, c'est peu les deux, c'est pas grave, c'est pas, enfin, on s'en fout, c'est pas, ça peut être l'un ou l'autre, les deux à la fois. C'est un peu, c'est très ouvert comme série. J'ai beaucoup aimé.
Vous la recommandez?
Mais, ouais, je la recommande. Non, mais c'est vrai que cette histoire du genre, là, c'est de besoin de se catégoriser, d'éduquer les garçons et les filles.
Ils se sentent en minorité,
ils se sentent, voilà, ils disent qu'ils sont en réalité.
Se sentir oppressés. Oui, oui, c'est ça, oui, ils vivent très mal.
En tout cas, autour de cette table, je me sens en minorité en tant qu'hétérosexuel.
Ouais. Oui, non, c'est vrai. Non, mais je comprends, ça les angoisse, hein. Oui, oui, ça les angoisse profondément, sûrement. Oui, oui, oui. Oh là là. Ouais.
Ils se sentent légitimés pour.
Le truc, c'est qu'ils se sont retrouvés avec 1000 contre-manifestants. Eux, ils étaient une centaine. Ils ont eu plus de 1400.
100 hétéros contre 1000 gays.
Défenseurs LGBT, tout ça. Voilà. Ouais. Et c'est à se demander si c'est pas contre-productif. Ouais. Non mais forcément parce que là pour le coup ils ont l'air à nouveau d'être réellement en minorité. Vous pensez que ça vaut le coup de les laisser
C'est aux États-Unis que ça se passe, hein, c'est ça? Parce qu'ils ont une façon de voir la liberté d'expression, les communautés aussi. Ils se créent des cultures aux États-Unis. Ils se créent des communautés qui deviennent des cultures, qui deviennent des groupes humains, qui deviennent presque des civilisations, quoi. Il y a un truc. Non, mais c'est vrai. On peut vivre aux États-Unis. On peut se créer un groupe de lunettes de soleil avec t-shirt le Big Lebowski. D'un coup, si on est
et calvitie, vous pouvez rajouter. On parle de Thomas.
Et d'un coup, on devient une communauté avec presque une culture, quoi. Je crois qu'en France, on fait pas ça, on crée pas ce genre de groupe.
Pas encore.
Pas les mêmes en tout cas.
Avec
le club.
Le lien qu'il y aurait avec le. Comment vous avez pensé à ce sujet avec le film?
J'ai pensé parce que le film, il est à rebours. Il est à rebours dans les genres justement.
Oui.
C'est Alice Taglioni qui donne des baffes. C'est vous qui n'arrivez pas à bander.
Oui. Ou enfin, quelques problèmes d'érection.
Andy, bien sûr. et là, en lisant cette brève, mais qui traduit un truc. Enfin, les masculinistes, ça existe. Ils se font beaucoup entendre je me disais que peut-être ça vous parlerait.
Ça me parle pas forcément dans le sens où j'ai pas envie forcément de m'engager dans ce combat.
Ah ben c'est bien, on est rassuré.
C'est pas un combat qu'il faut mener, non, je crois pas. Enfin, non, j'ai pas d'angoisse particulière
en tant qu'homme
concernant ma virilité, ma place d'homme. Dans la société, je me sens pas menacé. Non, ça va, non. Non, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de me faire draguer. Je me souviens en boîte par 3 meufs bourrées. Elles ont insisté. Puis je leur disais non. Puis elles insistaient. Puis elles y allaient, quoi. Je dis, mais c'est marrant, c'est comme les mecs. Vous êtes aussi lourdes que les mecs quand ils sont bourrés.
Ah non, mais sauf ça, c'est l'alcool. Ça nous met tous à égalité.
Non, la différence ce jour-là, c'est que je me suis dit, je me sens pas en danger, moi, physiquement. Avec les 3 gonzesses bourrées qui se marrent. En fait, elles se foutaient de moi, elles se marraient, quoi. Vous voyez, un acteur qu'elles connaissent, elles avaient envie de toucher, de tripoter, je sais pas. Enfin,
elles vous avaient confondu avec Rochdy,
elles m'avaient confondu avec Rochdy, voilà, c'est ça, oui.
Oui, c'est vrai que c'est toute la différence.
Et
se sentir en danger.
Mais je me suis pas senti en danger à aucun moment, alors que je pense qu'en tant que femme, si on se retrouve encerclé par 3 mecs bourrés dans une boîte, peut-être qu'on peut commencer un peu à s'angoisser. C'est la différence, quoi. Voilà.
Vincent Elbaz avec nous. Juliette Arnaud a une proposition à vous faire.
Oui. On propose toujours à l'invité de faire, enfin toujours, souvent, surtout quand on a un acteur, surtout quand on a un excellent acteur, de faire un sketch.
Oui.
Le thème du sketch, c'est que Cédric Villani devrait lancer sa candidature pour la mairie de Paris en 2020. Et depuis cet été, on a noté un changement conséquent de look chez Cédric Villani. Donc voici son équipe de com qui a su trouver les mots pour le métamorphoser. Vincent, vous êtes Cédric Villani, Charlène et Guillaume sont vos chargés de com.
Attendez.
Il n'y a pas de piège.
Bon, écoute Cédric, pour Paris 2020, il va falloir que tu changes quand même 2-3 détails.
Ah bon ?
Ouais, je suis désolé de le dire, mais tu fais peur aux gens.
Bah, j'ai même pas encore dévoilé mes idées.
Non mais c'est pas tes idées le problème, c'est ton look.
Et t'en fais pas, on va résoudre l'équation. Hein. Humour de com.
Mon look, il a quoi ?
Bah, les gens t'appellent le Lady Gaga de la politique, c'est qu'il y a un problème quand même.
Non hyper moderne, Lady Gaga.
Non mais ça dépend, t'es candidat chez Michou ou à la mairie de Paris là ?
Déjà, tu vas décrocher l'araignée de ta veste.
Hein. Voilà, le gars, il a reçu la médaille Fields et il préfère épingler une bestiole à sa veste.
Bah, une bestiole, c'est une arachnéa lupusis.
Mais tu fais flipper tout le monde avec ça.
Préférer un scarabée ?
Non.
Bah, sinon, à une époque, j'avais un corbeau sur l'épaule.
Non, laisse les animaux tranquilles. Ça, c'est un coup à un ancien spécis sur le dos.
Ouais, si tu veux mettre un insecte, tu te mets un nœud papillon à la rigueur. Mais il faut que tu la joues plus sobre.
Non, pitié, pas de costume bleu marine cintré. Là, je veux pas ressembler à tous les autres députés de la République de En Marche.
Non, mais c'est pas le but. Il faut que tu retires cette lavalière déjà. Tu te lances pour Paris 2020 ou pour Paris 2020?
Non, on va passer au dossier capillaire. Ça sert.
Vous voyez ou quoi? J'ai les cheveux les plus soyeux de toute l'Assemblée.
Ah, ça, il a pas tort parce que déjà lui, il a des cheveux. Hein. Humour de coiffeur.
Bon, ok. On va te faire une coupe façon Vincent Elbaz dans Le Péril Jeune.
Okay. Ah ouais, j'aime beaucoup le style Vincent Elbaz.
Alors maintenant, on va passer à tes interviews. Personne ne pige rien quand tu parles.
Ouais, on dirait du Eric Cantona qui aurait bouffé Françoise Sagan.
Ah bon? Bah pourtant, l'expression orale de mes pensées conforme la dialectique du projet dans lequel moi et mon action se lancent.
Voilà.
Typiquement, ce qu'il faut pas faire.
Les Parisiens sont des gens débordés, faut aller vite, faut faire simple, jamais plus de 90 mots.
90 mots par phrase ?
Ah, 90 mots en tout, rien en dessous de Griveaux, ça passe.
En relation avec le logarithme népérien de son QI.
Comment ? Comment ?
Qu'est-ce que c'est fait ? Non, c'était un humour de mathématicien.
Et voici celui qui va bientôt sonner la mi-temps. lorsqu'il aura terminé sa chronique, c'est Guillaume Meurice. Alors, où est-ce qu'il est allé cette fois-ci, Juliette?
Eh bien, comme d'habitude, un week-end à Deauville. Non, c'est pas vrai. Guillaume, il est parti sur son terrain de chasse favori, à savoir le Valois.
Ah, c'est un peu comme Deauville, mais sans la mer, peut-être.
Il paraît, je sais pas.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, c'est l'émotion, hein, qui l'emporte, bien sûr. Patoche est tombé. Et on a beau en rigoler, ça fait quelque chose. On est tous, qu'on le veuille ou non, des enfants de Patrick Balkany. On a tous grandi avec son parcours judiciaire, hein. À Levallois, les premiers mots des enfants, c'est pas maman ou papa, c'est mise en examen! Voilà. Alors, on est triste. Moi, j'ai moi-même la gorge serrée, pour vous parler, voilà, aujourd'hui. Je préfère donner la parole à son peuple, le peuple de Levallois, qui est en lutte pour la liberté, en lutte pour la vie. Des manifestations étaient organisées samedi et dimanche devant la mairie. Je vais vous dire, ça fait 5 ans que je fais des chroniques ici, j'ai jamais ressenti ça. Voilà, regardez, rien que d'en parler, ça me fout les poils. En tout cas, le Nelson Mandela des Hauts-de-Seine n'est pas seul. Il a le soutien des habitants et des habitantes mesurés qui savent relativiser.
100% une injustice. Je trouve ça horrible, complètement dégueulasse. J'espère que celui qui l'a jugé, qui se regarde bien dans une glace, qui se regarde bien dans une glace le matin avant de se lever, il verra le sale regard qu'il peut avoir. Parce que faire du mal à un homme comme ça, moi je trouve que c'est pas normal. Il doit avoir quelque chose contre lui. Il ne sait même pas ce qu'il a jugé. J'en suis sûre. Mais il est qui, lui, pour décider? Il n'y a rien par rapport à Balkany. Pour moi, il n'y a rien.
Moi, il est juge, quand même.
Pour moi, il n'y a rien.
Non, pardon, il n'y a rien. Vous avez vu comme j'ai peur, quand même. C'est vrai qu'on ressentait quand même, voilà, l'angoisse, la tension. Pardon, donc j'en perds mes réflexes. Il n'est rien, ce juge bolchevique à la solde de Moscou, payé par Thomas Legrand. C'est un scandale. D'ailleurs, parlons-en des juges.
De toute façon, les juges sont des minables. Celui qui a choisi d'être fonctionnaire 24 ans, c'est vraiment pas un élément bien brillant.
Tous les fonctionnaires sont des minables?
Disons à 90%.
Oui, c'est à peu près les chiffres que j'ai aussi. Et encore, j'ai pas compté les techniciens de Radio France. Hein. Si on monte à 102% assez rapidement, selon l'Institut Ipsos Neuilly-Levallois-Medef, réalisé comme ça un peu au doigt mouillé, sur un échantillon de minables donc. Mais ne nous énervons pas, le temps est à l'hommage.
Ben, j'espère que...
Qu'il reviendra bientôt.
Qu'il va se sentir habitué. Hein.
Ouais.
Et puis après, on verra, si vous voulez. Hein. S'il résiste, s'il a la santé.
Ah ben là, il est à la santé.
Ouais.
Non, j'ai essayé l'humour, j'ai essayé la méthode Thomas Croisière qui organise des karaokés dans les enterrements. Voilà, mais là non, ça ne passe pas du tout, le mal est trop profond. Patrick est en prison, soi-disant, parce qu'ils avaient peur que Patoche s'échappe. Une thèse qui ne tient pas, selon ce monsieur.
Qu'il s'en aille à l'étranger, il pouvait pas déjà, il avait pas de passeport depuis 5 ans, je crois, hein, c'est ça.
Pourtant, il a une maison à Marrakech.
Ça, on sait pas encore, hein, c'est pas, on n'a pas su. Hein.
Non?
Non, je crois pas, non, je sais pas.
Vous étiez pas au courant?
Si, mais bon.
Oui, voilà.
Voilà.
On n'est pas obligé de se souvenir de toutes les maisons qu'on a, hein. Regardez Nicole Belloubet. Hein, on lui dit, bah, vous avez une maison dans l'Aveyron. Hop, c'est vrai. Vous savez pas ce que c'est, vous avez des apparts en location. Mais voilà, on a des fois un riad comme ça qui traîne à droite à gauche. Hein, un chalet, une maison, quoi. Alors, Patrick, il a une nouvelle maison, une maison d'arrêt, en l'occurrence. Et il nous écoute, sans doute, depuis sa cellule.
Puisqu'il, oh, c'est vrai,
bah, oui, on le salue, Patoche. Et les gens ont des messages de soutien. Ils avaient mis d'ailleurs devant la mairie des livres où les gens pouvaient comme ça inscrire leur message. On écoute.
C'est ce que j'ai écrit ce livre, tout l'amour et toute l'amitié que je porte au Balkany depuis tant d'années.
L'amour, carrément?
Ah oui, je les aime beaucoup, ouais. Je les aime beaucoup.
Pourquoi alors?
Je les aime beaucoup parce que ce sont des gens formidables.
Est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui trempe dans les affaires depuis un moment et que ça lui pendait au nez?
Non, ce sont des gens qui travaillent. Mais à qui ça n'arrive pas de mal déclarer ses revenus?
D'ailleurs, hein? La question est posée, soyez honnête, hein, voilà, ouais, soyez honnête comme Patrick, reconnaissez-le. Vous n'avez jamais volé un carambar à l'école, peut-être? Bon, ben voilà, Patrick, il a volé l'usine à carambar, mais sur le principe, c'est la même chose. D'ailleurs, je vous parle de l'école parce qu'à Levallois, on aime Patoche à tous les âges.
J'ai 8 ans.
8 ans? Et qu'est-ce que tu as écrit sur le cahier?
Je me souviens quand, à la fête, j'avais dansé avec lui, Balkany.
T'as dansé avec Patrick Balkany?
Oui. Avec ma copine et mon copain.
Et alors du coup, tu le soutiens?
Oui.
Est-ce qu'il a fait des bêtises ou pas, Patrick Balkany?
Bah, papa, il m'a dit.
Il a dit quoi?
Je me souviens plus.
Ah là là là, la perte de mémoire, c'est une pathologie hein, qui touche tous les habitants de Levallois. C'est vraiment la maladie de la ville. Ils sont tous touchés par un Alzheimer fulgurant. Et c'est une maladie qui a beaucoup touché tous les membres, en règle générale, du parti Les Républicains. Il y en avait un, hier, en soutien à Patoche. C'est Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine.
Moi, je partage l'opinion de Sarko. Dans le malheur, on ne met pas le pied sur la tête des gens. Voilà.
Ouais, il est soutenu par Sarkozy, par Jean-François Copé. Il est soutenu que par des gens honnêtes, alors, c'est Patrick Balkany.
commencez pas.
Oui, je suis comme un citoyen lambda qui est ému, voilà, de tous ses soutiens. Il manque plus que celui de Bernard Madoff et d'Al Capone et on est au complet. Allez, courage Patoche, t'es en prison aux frais du contribuable. Finalement, ça te change pas trop. Et courage à tous ceux qui prônent la tolérance zéro à longueur de temps, mais qui chouinent quand elle est appliquée.
Merci Guillaume Meurice.
Minouche, ma minouche. Tu te fâches, ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, un petit rien t'échauffe pour une escarmouche. La colère te fauche. Le reste on s'en fiche. À quoi bon le clash si personne ne triche. J'aime le rouge qui tâche quand il sort de ta bouche. La jolie ganache des airs de manouche.
France Inter, on entame la deuxième partie de cette émission avec une actrice qu'on adore, c'est notre héroïne.
Ah oh, oui, et puis depuis longtemps. Non, ça commence à faire toute jeune qu'elle est.
Adèle Haenel avec nous. Bienvenue Adèle Haenel.
Merci. Bienvenue, j'allais dire, mais non, moi. Merci.
Ouais, c'est votre émission, hein, donc en fait, on est un peu invité chez vous aujourd'hui, car vous nous invitez au cinéma à voir Portrait de la jeune fille en feu. Nous débarquons sur une plage de Bretagne au XVIIIe siècle avec Marianne, interprétée par Noémie Merlant. Marianne est peintre, chargée d'une commande. Elle doit réaliser le portrait d'Héloïse, votre personnage. Ce portrait est destiné au futur mari d'Héloïse, afin qu'il valide le mariage. C'était l'usage à l'époque. Mais Héloïse, qui refuse ce mariage, refuse de poser. Il faudra donc la peindre en loose day. Après l'avoir observée à la faveur de longues promenades, les deux femmes se plaisent intellectuellement, se séduisent, se plaisent physiquement. Et lorsque la mère d'Héloïse s'absente quelques jours, elles vont vivre une parenthèse de liberté dans cette société patriarcale et corsetée de l'époque. Jusque-là, est-ce que j'ai bon ?
Tout à fait.
Alors, Juliette, première question à Adèle Haenel.
Le titre du film, c'est Portrait de la jeune fille en feu. C'est un titre magnifique, certes, mais pour autant, c'est un titre tout à fait pragmatique. Cette jeune fille que vous incarnez, qui au début du film sort du couvent, qui est un peu hantée par le fantôme de sa sœur suicidée, petit à petit s'embrase. De quel feu, Adèle, ou plutôt de quel feu au pluriel?
Je sais pas, je pense que c'est un personnage qui au départ, a compris qu'on le considérait comme un objet, c'est-à-dire que voilà, on a préservé sa valeur dans un couvent, on va utiliser cette valeur dans un mariage. Enfin, c'est le destin de quand même pas mal de femmes et qui en fait s'embrassent parce que simplement il est vivant. Donc effectivement, on peut parler d'embrasement métaphorique en parlant de l'amour, de l'excitation pour les débats d'idées aussi, enfin que vous connaissez, j'imagine, et ce genre de jubilation là qu'on peut associer, enfin voilà, à cette dynamique de feu. Et puis après, il y a très concrètement, puisqu'on prend les choses au sérieux, une image de personne. Enfin, je prends effectivement feu dans le film.
C'est vrai. Voilà. Délibérément.
Délibérément feu, oui.
Adèle Haenel avec nous. On va aborder ce premier sujet. Nous fêtons bientôt les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'était le 9 novembre 1989. Aujourd'hui, la division Est-Ouest perdure et l'extrême droite progresse à l'Est, car les promesses n'ont pas été tenues. Le Courrier International a choisi une couverture qui pique un petit peu pour illustrer cette Allemagne qui se radicalise, une famille de blonds un petit peu trop propre sur eux, où maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui tient un fusil de chasse. Manquerait plus qu'il morde, hein, parce que déjà il chante.
Sois bien rangé, j'aime que ma famille m'obéisse, j'aime la chasse et mes copains bourrés, j'aime surtout la représentation du Christ, j'aime bien que les femmes n'avortent pas, j'aime bien la télévision, j'aime bien l'idée du partage, j'aime cependant ne pas donner mon pognon.
Je pense qu'on peut y aller. J'aime mon pays. C'est Sexy Sushi sur France Inter. Alors, Adèle Haenel, vous avez 30 ans.
Oui.
Le mur est tombé 10 mois après votre naissance. Vous pratiquez l'allemand.
D'après Wikipédia, oui, mais un peu moins en fait.
C'est vrai ?
Mais oui, bon, c'est pas... je garderai ce mystère pour moi.
D'accord, gardez une part de mystère. Vous pratiquez l'allemand, vous avez tourné en allemand. Alors, est-ce que Wikipédia a raison ou est-ce que votre papa est autrichien ?
Oui, absolument.
Ce tropisme là, en tout cas.
Dis pas juste n'importe quoi, Wikipédia.
Est-ce que le mur de Berlin est tombé, d'ailleurs? Est-ce qu'on a vérifié? Parce que Wikipédia dit oui, mais... à voir.
Alors, est-ce que ce bagage, cet intérêt que vous avez, en tout cas pour la langue allemande, déjà, ce bagage vous a rendu attentive, plus ou moins, à ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne? Je vous avoue que nous, en découvrant le dossier du Courrier International, on n'imaginait pas à quel point il y avait encore autant de différences et les désillusions à l'Est, etc.
Je suis pas non plus experte, hein. Enfin, je veux dire, effectivement, je m'intéresse, à l'Allemagne, dans les propositions culturelles qui sont faites.
Et comme citoyenne, quoi.
Mais après, je saurais pas vous dire. Franchement, il se trouve que quand j'ai repris des cours d'allemand, j'ai appris à Dresde, qui en fait est donc vraiment à l'est. Et c'est une ville qui a été le point de départ du mouvement Pegida. Donc, c'était vraiment intense comme. Je vois que c'est une vraie question en Allemagne, mais après, franchement, je pourrais pas vous dire.
Vous l'avez palpé, en fait, sur le moment.
Du coup, là, c'était difficile de ne pas, puisque le mouvement était en cours et que j'y étais que avec des gens qui apprenaient l'allemand, donc qui, par définition, étaient étrangers. Donc, forcément, c'est un peu, voilà.
Adèle Haenel avec nous. Revenons-en au cinéma de Thomas Croisière.
Laisse bien raisonnable de me confier cette chronique, Charline, car je ne vous cache pas que Portrait de la jeune fille en feu m'a d'abord déçu. On m'avait dit, c'est une histoire de gonzesse en feu qui aime la pipe et jouer avec de gros pinceaux, pile poil dans mes critères de recherche internet. Donc, je me préparais à le regarder d'un œil et d'une main quand je me rendis compte que c'était un film en costume. Déjà, pourquoi des costumes? Et que la seule chose qui soit à queue sur leur île, c'est le piano sur lequel Noémie Merlant tente de jouer les 4 saisons qui donnèrent leur nom à la célèbre pizza. Oui, comme il dit dans votre film, Adèle, pour être drôle, il faut être deux. Et je compte sur votre soutien. Des robes à corset, une île, un piano. On ne peut s'empêcher de penser à la leçon de piano, première palme d'or remportée par une femme en 46 festivals de Cannes, souvenez-vous. À l'époque, on entendait la musique de Michael Nyman partout. Un peu plus tard, ce fut celle d'In the Mood for Love. Vous aviez 11 ans, et moi, à la fin, rien qu'en entendant cette valse, je pouvais tuer des gens. Les violons du Wong Kar Wai furent ensuite remplacés par l'accordéon d'Amélie Poulain. Régulièrement, une bande originale s'empare d'une période et se retrouve partout. Les pubs pour les assurances, les montages de L'amour est dans le pré ou le répondeur de sa petite amie. Cette musique qui permet d'aller chercher l'émotion du spectateur en lui donnant la mesure. Votre réalisatrice, Céline Sciamma, l'utilise avec parcimonie. Non, Guillaume, ne me demandez pas avec qui, puisqu'elle joue essentiellement avec le bruit des éléments. L'eau, le vent et le feu, magnifiant ainsi la puissance de ces images terriennes, véritable tableau animé. Ces rares choix musicaux n'en ont que plus d'impact et ont bouleversé Juliette Arnault qui m'a confié, réécouté depuis en boucle, l'été de Vivaldi sur lequel vous êtes si tout. Je ne pensais pas que Juliette aimait la grande musique. Sinon, comment expliquer les deux agressions anti-Sardou de son dernier roman? Et pire, qu'elle ait choisi des paroles de Julien Clerc pour titre « Maintenant comme avant » alors que « Ne m'appelez plus jamais Rose » aurait été parfait. Comme Michel, qui a fait beaucoup pour la libération de la femme, il rêve d'être une femme dans Un voyage en absurdie, et dès 1981, il appelait de ses voeux une femme s'installant à la présidence qui de là ferait bander la France. Céline Sciamma est une femme cinéaste, écrivain. Et je ne sais pas si elle est poète et mannequin, mais elle fait trembler le cinéma de papa. Déjà, parce qu'à part trois pauvres rameurs, le chef d'écho et l'ingénieur du son, Portrait de la jeune fille en feu est un film fabriqué par des femmes. Sa conférence de presse 100% féminine fut une des images marquantes du dernier festival de Cannes, où il remporta le prix du scénario. Ensuite, parce que ce film est un des rares à passer le test de Bechdel. Ce test visant à mettre en évidence la sous-représentation des femmes dans une œuvre de fiction. Les règles, les hommes diront les principes, en sont simples. 1. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l'œuvre. Ici, elles s'appellent Héloïse, Marianne ou Sophie. 2. Qui parlent ensemble. Et ça, elles parlent très bien d'ailleurs. Et surtout, elles se regardent. Votre film est une ode au regard, tout feu, tout femme, avec en point d'orgue cette question posée par la muse que vous êtes pour Marianne comme pour Céline. Si vous me regardez, qui je regarde moi ? Troisièmement, qui parle de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. On y parle donc d'amour. Un amour au présent qui rappelle celui de Rose et Jack dans Titanic, lui aussi tracé au fusain et nourri d'interdits, comme il rappelle l'amour saphique des brunes et blondes de Mulholland Drive. On y parle de liberté et de cette impossibilité pour les femmes de choisir leur destin et de peindre des hommes, ce qui était un moyen de les empêcher de faire de la grande peinture et entrer dans l'histoire avec un grand H comme Enel. On commence à parler d'égalité, ce sentiment qui doit être si doux à vivre, pour reprendre les mots d'Héloïse, et de choix par l'évocation ovidienne du mythe d'Orphée et Eurydice, ce choix cornélien de l'amoureux ou du poète, j'ai fait le mien. Eh bien, sachez que plus de la moitié des films produits depuis 2005 échouent à ce test. Ce n'est donc pas un hasard si sur les 59 œuvres que je vous ai conseillées l'année dernière, une seule était réalisée par une femme, et je m'en excuse. Gageons que votre film fera subtilement évoluer les choses, en tout cas en ce qui me concerne, sachez que je suis désormais prêt à considérer que les femmes sont des hommes comme les autres.
Vive le cinéma!
Merci Thomas Croisière. Si on abordait un dernier sujet avec vous, Adèle.
Quelle étrangeté d'apprendre qu'en 2019, on a pu conseiller à Kristen Stewart de taire sa bisexualité afin de décrocher un rôle chez Marvel. Kristen Stewart s'est d'ailleurs empressée de faire l'inverse et de se balader avec sa petite amie. Le plus amusant dans tout ça, c'est qu'on sait depuis longtemps que le show business en général capitalise sur la vie privée des unes et des autres, au son des trompettes de la renommée.
Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication. Si je publie des noms, combien de Pénélopes passeront illico pour de fiefées salopes, combien de bons amis me regarderont de travers, combien je recevrai de coups de revolver. De la renommée.
Alors Adèle, on a choisi ce sujet parce que vous avez trois points en commun avec Kristen Stewart. Vous avez une filmo impeccable toutes les deux. Vous êtes des actrices à 6 mois près du même âge et vous ne faites pas mystère ni l'une ni l'autre de votre sexualité. Ce qui n'est pas exactement une tradition à Hollywood, en France, de partout. Avant, on se doutait, on ne le disait pas, l'hétérosexualité était la norme indépassable. Sauf que voilà, ça y est. Et ce sont les filles qui se rebellent. Pourquoi c'est pas les garçons?
Déjà, c'est un peu je sais pas si c'est une affirmation, est-ce que les garçons ne se rebellent pas? Je ne sais pas.
Eh ben, alors j'ai fait des recherches.
D'accord.
Bon, si en tapant alors, des trucs assez compliqués sur Internet.
George Clooney, gay.
Tom Cruise, gay. Will Smith, gay. C'est jamais que des rumeurs, des mecs qui disent, qui ont des filmos, qui ont du pouvoir, ne disent rien.
Bah je sais pas trop comment rebondir là-dessus. Enfin moi j'ai pas non plus l'intention d'étaler ma vie privée. Il me semble juste qu'il y a un moment où ça devient politique. Donc c'est là où je m'arrête en fait. Je le dis parce que pour moi c'est politique de le dire, que c'est quelque chose que je pense qui peut faire du bien à pas mal de gens. Et c'est en ça que je m'engage. Après moi personnellement partager sur ma vie privée, franchement ça c'est pas mon truc. Quoi.
Mais c'est on est bien d'accord que là il s'agit pas que ce soit chez Kristen Stewart ou chez Ellen Page, il s'agit effectivement d'affirmer une chose tout à fait politique.
Oui.
De dire je peux jouer des filles hétérosexuelles sans en avoir la sexualité, par exemple.
Oui, effectivement. Enfin, juste de donner une visibilité, en fait. Enfin, voilà, une visibilité homosexuelle, une visibilité queer. Enfin, ça me semble important que ce soit incarné dans le paysage public, quoi. Après, je ne saurais pas.
Après, on ne compte pas sur Marvel pour le faire. C'est
oui,
certain.
C'est ça aussi. Non, c'est parce que...
non mais ça, enfin, forcément, ça va venir à un moment où ils seront bien obligés.
Oui, en fait, ça change justement parce que petit à petit, il y a des pas qui sont faits, des générations précédentes, de ma génération, puis des générations à venir. Enfin, on s'aide les uns les autres, quoi, là-dedans. Mm. Et puis, j'espère que. Bon, bref, je m'arrête là, mais j'espère qu'effectivement, en fait, ça va changer et que ce ne sera plus une question bientôt.
Adèle Haenel, on voudrait jouer avec vous si vous êtes d'accord. On a un sketch à vous soumettre. Mais oui.
Alors, le thème du sketch, on a imaginé que le couple Balkany était dans une comédie populaire exactement comme vous les aimez, Adèle, les Tuches. Ouais. Alors, vous vous chopez le premier rôle, vous serez Isabelle, Guillaume sera le fiston et Charline, une journaliste.
Mais d'accord, ok. Bon, bah, allez, vas-y, on y va.
On découvre hein, tous en même temps.
Ok, on découvre.
Ne vous inquiétez pas. Lecture.
Maman, on fait quoi aujourd'hui ?
On va prendre les devants, je vais te nommer adjoint de l'adjoint. Comme ça, si on nous fait des histoires, tu seras le nouveau maire.
Oui, et je pourrais te prendre comme adjointe ?
Bah, bien entendu, il faut que ça reste en famille. Et si on nous empêche, tu prendras Edoui.
Edoui, notre caniche ?
Oui, oui, t'inquiète pas. Bon, de toute façon, depuis qu'on n'a plus le droit de détourner de l'argent, il n'y a plus rien à faire comme boulot ici.
Ok.
Mais avant tout, il faut que tu revoies les bases. Tu sais quelle est la principale mission du maire ?
T'auras un indice ?
C'est de faire...
Du fric !
Voilà,
du fric,
voilà,
du fric,
voilà.
Du fric, du fric, du fric !
Ça, c'est bien, ça, c'est bien le fils à maman, ça. Bah, oui, c'est bien le fils à maman, ça. Mais non, il faut aussi faire plaisir à ses concitoyens. Ah. Alors, tu commandes 700 mugs Bring Back Our Patrick et 200 t-shirts Balkany Mandela, même combat.
D'accord, et je les paye avec quoi ?
Bon, bah, il y a un grossiste près de la mairie, on lui a trouvé des places en crèche pour ses 12 petits-enfants, il nous doit bien ça.
Maman, il y a plein de journalistes devant la maison.
Ah, génial! Alors, que faire face aux journalistes?
Je sais pas trop.
On leur donne.
Du fric! Du fric! Du fric! Du fric! Du fric!
Non. Bah non, le fric, on le garde. Ah. T'es con ou quoi? Mais, aux journalistes, on leur donne ce qu'ils ont envie d'entendre. Vas-y, laisse-les entrer.
T'es sûr que c'est le moment? Bah, c'était censé quand même être en arrêt maladie.
Non,
quand
t'inquiète
même.
Pas. Ouais. Bon. Je joue aussi bien la fêlure que la combattante, j'ai vu tous les films d'Adèle Haenel.
Madame Balkany, vous trouvez ça normal de reprendre l'activité de votre mari?
Ah, vous dites ça parce que je suis une femme, c'est ça?
Non.
Ah bah bien sûr que si, vous transpirez le sexisme. Vous savez, je lui ai tout appris à mon mari, il me doit beaucoup. Moins qu'à la France, mais quand même.
Non, mais c'est surtout parce que vous avez aussi été condamnée, donc je m'interroge.
Mais que se passe-t-il? Quelles sont les étoiles qui troublent ma vision? Les vertiges reprennent.
Non, mais c'est pas un peu indécent.
Indécent? De quoi? De poser des questions outrancières à une pauvre femme alors qu'elle est clairement entre la vie et la mort. Vite, Alexandre. Une chaise et un verre de Saint-Émilion.
Oh là 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 là, mais vous avez fatigué maman, ça va?
C'est bon, elle s'est barrée, cette poufiasse.
Ouais, ça va, ils sont tous partis là, c'est bon.
Alors, quoi, t'as admiré la technique?
Ouais.
Tout est dans l'interprétation. Bon, mon petit Alexandre, ça fait une bonne demi-heure qu'on travaille là, on a bien mérité de terminer la journée avec.
Du fric! Du fric! Du fric! Du fric! Du fric!
Et voici celui qui sera là tous les jours, le point d'orgue de l'émission, Juliette.
Et qui dit orgue, dit église, dit Frédéric Fromet. qui, comme nous tous, avait été très catastrophé par ce qui était arrivé à Lubrizol et donc avait décidé de chanter pour la Normandie.
Mal au cœur et mal aux yeux, les poumons ne vont pas mieux. La Normandie meurt peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour eux, eux les futurs cancéreux, comme si c'était pas suffisant d'habiter Rouen. Ils ont toujours connu la pluie, un ciel encombré, menaçant. Aujourd'hui, ils sont couverts de suie, c'est pas un grand changement. Les gens de Normandie qui puaient le camembert jusqu'alors, il leur a suffi d'un incendie pour sentir encore plus fort. Mal au cœur et mal aux yeux, malgré Sainte-Thérèse de Lisieux, la Normandie meurt peu à peu, peu à peu. Même les vaches ne font plus meux, la blanchette, ça la taraude, qu'on l'appelle depuis le feu, la noiraude. Si un jour tu vas à Rouen, parce que tu aimes bien les maladies, n'oublie pas de faire ton testament entre deux vomis. si tu aimes la dioxine, le gazole, les hydrocarbures, les détergents, c'est une chance, l'usine Lubrizol t'en fait bouffer gratuitement. Mal au cœur et mal aux yeux, malgré le préfet heureux, la Normandie meurt peu à peu, peu à peu. Toi le Normand qui panique, si tu crois qu'on t'empoisonne, va sniffer en Martinique le chlordécone. Loin du cœur et loin des yeux, de nos vies qui valent si peu, la chimie tu peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour tous les pollueurs qui salopent tout. Pire que vos heures dures, c'est vous, les gros dégueux.
Et voilà, Juliette, c'est déjà fini.
Mais non.
Mais si, mais on se retrouve demain, bien sûr.
Ah, mais oui. Ah,
restez avec nous, chers auditeurs, demain, car nous avons deux très beaux invités. Michel Thor.
Oh, mon Dieu, qu'Alex doit être content.
Oh là là, c'est une icône pour l'émission, c'est un peu notre mascotte. Et un acteur qu'on adore, parce qu'on l'entend même souvent dans les extraits qu'on passe dans l'émission, Jean-Pierre Darroussin. Voilà.
Et là, c'est moi qui suis contente.
Demain, Thor Darroussin.
Yeah.
À demain.